C'est 23.
Patrick Lagacé en accéléré. Les meilleurs moments du Québec maintenant en moins de 60 minutes.
Quand on parle de contrôle des armes à feu, on pense souvent spontanément à nos voisins au sud ou dans plusieurs États. Ben, c'est ce qu'ils appelleraient le free-for-all. À la une du Journal de Montréal aujourd'hui, la journaliste Clara Loiseau là, qui montrait à quel point c'est facile d'acheter une arme très, très rapidement aux États-Unis sans qu'on pose trop de questions. C'est différent au Canada, oui, mais ce n'est pas parfait. Ça fait des années que beaucoup de militants exigent que le gouvernement fédéral en fasse plus pour interdire certains types d'armes, peut-être un programme de rachat obligatoire de certaines armes qu'on dit d'assaut, par exemple. C'est le cas des gens de Poly se souvient, comme Nathalie Provost, survivante de la tuerie de Polytechnique en 1989. Elle est avec nous parce que dans moins de 2 heures, les libéraux de Justin Trudeau vont déposer un nouveau projet de loi sur le contrôle des armes à feu. Nathalie Provost, salut!
Bonjour!
Quelles sont vos attentes pour ce projet de loi?
Oh, elles sont élevées. On espère avoir une loi qui va interdire de manière complète et permanente les armes de style d'assaut. Évidemment, un programme de rachat obligatoire et puis du travail qui va être fait pour empêcher l'acquisition de chargeurs de plus de 5 balles, hein, parce qu'aujourd'hui, il y a des trous dans nos lois et puis on peut acheter un chargeur de beaucoup plus que 5 balles qui est bloqué à 5 par une petite pin qu'on peut enlever. Donc ça, c'est 3 promesses électorales de Justin Trudeau. Donc on s'attend à les voir dans le projet de loi aujourd'hui. Puis on espère aussi voir évoluer la pensée du gouvernement Trudeau sur les armes de poing, puisque jusqu'à présent, il nous a toujours parlé qu'il voulait retourner la responsabilité vers les provinces, et c'est quelque chose qu'on trouve pas compréhensible et pas admissible.
OK, parlons d'armes d'assaut. Je sais qu'il y a un débat là sur les mots. Là. Les gens qui aiment les armes à feu, qui en collectionnent, qui en utilisent, vont dire que des armes d'assaut, ça veut rien dire. Qu'est-ce qu'on entend par armes d'assaut quand vous parlez de ce terme-là, Nathalie?
Ben, c'est des armes qui sont, c'est des armes qui sont assimilables à des armes utilisées dans le domaine militaire. Elles ont été tweakées, modifiées un peu pour qu'elles répondent aux critères d'armes non restreintes ou restreintes selon les lois canadiennes. Mais quand on les regarde, elles ont l'air d'armes militaires. C'était pas le cas, par exemple, du Ruger Mini 14 qui a été utilisé à Polytechnique, mais il en reste pas moins que c'est une arme qui peut tirer de très nombreuses balles et très, très rapidement. C'est pas des armes utiles pour la chasse, c'est des armes destructrices. C'est des armes qui font de grands dommages. Et pour nous, c'est pas des armes qui sont destinées à la chasse. C'est pas des armes qui sont destinées au travail dont on veut, par exemple, quand c'est des gens dans les fermes et tout qui ont besoin de certaines armes. C'est pas pour ça. C'est souvent des armes utilisées pour du tir sportif. Et pour nous, c'est pas une justification suffisante pour que ça puisse se retrouver dans les mains des Canadiens.
Nathalie Provost, le fameux AR-15 qui est utilisé dans tellement de tueries de masse aux États-Unis, comme la dernière, là, pas loin de San Antonio la semaine passée au Texas. Est-ce qu'on peut pas acheter ça au Canada?
On peut l'acheter au Canada. Ma mémoire est exacte, puis vous m'excuserez, il y a des affaires que la mémoire est moins bonne que d'autres. Si ma mémoire est exacte, c'est une arme restreinte aujourd'hui. Ça veut dire qu'avec des permis particuliers, on peut y avoir accès. Elle est sur la liste des armes qui ont été interdites en 2020 par l'arrêté en conseil. Mais il y a des SKS qui n'ont pas été mis sur la liste, qui sont des armes clairement de style d'assaut, qui n'ont pas été sur la liste, donc que les gens peuvent encore acquérir. C'est des armes restreintes, mais il reste que des honnêtes citoyens avec les permis suffisants peuvent les acquérir aujourd'hui.
OK, Nathalie.
Et donc, ce qu'on veut, nous, c'est une loi qui change les critères et qui fait que ce type d'arme-là, qui répondent à certains critères, ne puissent plus être en circulation au Canada.
OK. Nathalie Provost, vous êtes une survivante de Poly. Les gens vous connaissent bien. Vous avez milité après ça. Et il y a quelques années, vous étiez dans un comité du gouvernement fédéral, une sorte de comité aviseur, dont vous avez démissionné avec fracas en disant que les libéraux étaient pas sérieux sur le contrôle des armes à feu. Aujourd'hui, est-ce que vous êtes désillusionné ou vous avez encore un peu d'espoir avec ce projet de loi?
De campagne électorale en campagne électorale, il reste que c'est encore les libéraux qui font les promesses les plus fortes et qui nous semblent le plus capables de légiférer en matière de contrôle des armes à feu. Donc, on garde toujours bon espoir. Je vous le cacherai pas, les démarches de consultation qui ont été tenues par M. Mendicino depuis la fin de l'hiver 2022 nous donnent, on espère vraiment avoir de très bonnes nouvelles aujourd'hui. Évidemment, on vendra pas la peau de l'ours avant de l'avoir tué. L'image est peut-être drôle aujourd'hui selon ce qu'on parle, mais j'espère vraiment qu'on va être satisfait. L'impression que j'ai à voir l'attention qui est apportée autant par le politique que par le monde médiatique, c'est que ça va être une grosse nouvelle. J'applaudirai pas tant que je l'aurai pas vu. Puis je m'attends à ce qu'il reste encore du combat à faire. Puis avec votre appui puis l'appui des citoyens, on va continuer de militer.
Qu'est-ce qui serait une grosse et bonne nouvelle pour vous dans ce projet de loi qui va être présenté là dans moins de 2 ans?
Un projet de loi qui revoit la caractérisation des armes dans la loi sur les armes à feu, le programme du rachat obligatoire complété, des décisions aussi sur les armes de poing qui sont beaucoup plus raisonnables, hein, ramener la responsabilité, il parle plus des villes aujourd'hui, mais ça n'avait pas de bon sens, même aux provinces, puis les provinces n'en veulent pas. Donc, c'est les grands éléments pour lesquels on veut des avancées. Il y a aussi... Et ça, c'était étrange, hein, le projet de loi de l'année passée de M. Blair indiquait que les personnes qui ont peur pourront aller demander à un juge que soient retirées les armes. Or, aujourd'hui, sans mandat d'un juge, les policiers pourraient intervenir. Donc, on a aussi travaillé fort pour la sécurité des femmes qui ont peur pour leur vie dans des contextes de violence conjugale. Les mouvements de femmes ont aussi été consultés beaucoup par le ministre Mendicino. C'est autre chose qu'on attend aussi.
Qu'est-ce qui serait un échec pour vous si ça ne se trouvait pas dans le projet de loi qui va être présenté?
Oh. Vous savez, dans les années 90, il y a eu une première liste d'armes qui ont été interdites par le gouvernement libéral de l'époque. Et quand les conservateurs sont arrivés en mandat, cette liste-là a été abolie, puis toutes les armes sont redevenues actives. Donc, c'est une des grandes craintes qu'on a, c'est qu'on reste avec une liste d'armes et qu'on ne se retrouve pas avec un projet de loi complet qui fait vraiment l'interdiction des armes de style d'assaut. Pour Polytechnique, c'est assez fondamental, c'est notre première revendication. La première conférence de presse qui a eu lieu par des étudiants de Polytechnique en janvier 1990, j'y étais. Heidi Rajan, qui est impliquée avec moi, y était, mais d'autres professeurs, des étudiants, des familles, c'est ce qu'on demandait. Et c'est ce qu'on veut depuis 32 ans qu'on n'a toujours pas.
Vous avez dit qu'au chapitre des promesses, Mme Provost, les libéraux sont meilleurs que les conservateurs. Mais dans l'exécution, est-ce que les conservateurs et les libéraux sur le contrôle des armes et de certaines armes plus dangereuses que d'autres, c'est bonnet blanc, blanc bonnet?
Bien, pas si on parle depuis 32 ans. Il en demeure pas moins qu'en 1995, c'est Alan Rock qui a tout revu le système et qui a créé tout l'enregistrement des armes à feu et qui avait revu de fond en comble la loi sur les armes à feu. Donc, c'était un grand projet de loi important. Et ce qui fait qu'il est très difficile aujourd'hui de légiférer, c'est qu'on a perdu beaucoup d'informations puis de données lors de la destruction du registre. Il faut donc repenser la façon dont on aborde le système. Ça a été très long pour le gouvernement Trudeau de comprendre l'urgence, l'importance d'agir avec rigueur, discipline et volonté. On est en notre troisième ministre de la Sécurité publique depuis 2015. Mais comme je vous dis, pour la première fois, on a l'impression d'une réelle écoute et d'une réelle volonté de changer les choses. Fait qu'espérons que ça sera la bonne fois.
OK. En terminant, Mme Provost, il y a des gens qui m'écrivent et qui me posent la question, je veux vous entendre là-dessus. Qu'en est-il de plusieurs armes qui arrivent ici au Canada de façon illégale, qui sont acquises et utilisées de façon illégale? Ce projet de loi-là risque de pas changer grand-chose.
Oui et non. Ils ont raison, il y a des enjeux liés au trafic d'armes illégales. Mais si on est dans un monde où sont prohibés plusieurs types d'armes, sont interdites plusieurs types d'armes qui sont utilisées par les crimes violents, par les gangs et dans des contextes illégaux, les policiers vont avoir scanner les armes de ce type-là va devenir beaucoup plus rapide et ça va être beaucoup plus clair qu'elles sont dans le monde illégal. Puis en ayant une juridiction fédérale qui y attache, parce qu'éventuellement le commerce, la circulation des biens, tout ça est attaché. Hein. Donc, en ayant une juridiction fédérale, on pense que ça devrait aider le travail des policiers aussi.
Merci, Mme Provost. On va suivre ça avec intérêt. Bonne journée.
Merci, bonne journée.
À la prochaine. Nathalie Provost, survivante de Polytechnique, avait été atteinte par balle, milite au sein de Poly, se souvient. Vous l'avez entendu, il y a un projet de loi qui s'en vient, projet de loi très attendu du gouvernement Trudeau. Ben, on jugera l'arbre à ses fruits dans quelques instants. On va le savoir dans moins de 2 heures, ce qui se cache là-dedans. Ce que les militants espèrent, je vous le dis, là, c'est une sorte de programme de rachat obligatoire. Tu as certains types d'armes chez toi. Ben, à partir de telle date, c'est illégal de les avoir. Si tu veux que l'État te les achète et te compense, ben, tu as jusqu'à la date X pour te faire rembourser. C'est ce qui s'est passé, par exemple, en Grande-Bretagne après 1996, quand il y avait eu un massacre dans une école à toute fin pratique en Grande-Bretagne, ben la propriété privée d'armes à feu est devenue à peu près impossible depuis cette tragédie. Jour 96 de la guerre en Ukraine. Cette guerre-là, comme toutes les guerres, évidemment, elle se déroule sur le champ de bataille, mais c'est aussi un champ de bataille pour l'information. Il y a des camps qui veulent que leur version des événements s'impose dans les consciences et au milieu, ben il y a des journalistes qui sont et qui se rendent en Ukraine pour montrer le visage de la guerre, témoigner du quotidien des civils, de la réalité des batailles militaires. À cette antenne, il y a notre ami Fabrice de Pierrebourg qui se rend souvent en zone de guerre et il partait ce matin pour l'Ukraine pour un deuxième séjour. On a souvent mis en onde Anne Niva, une grande reporter française, et pas plus tard que la semaine passée, la dernière fois. La chaîne BFM TV est en deuil. Le président français Emmanuel Macron a lui-même annoncé la mort d'un journaliste, Frédéric Leclerc-Imoff, en Ukraine. C'est passé dans les dernières heures. Sa collègue Clémence Dibou, qu'on a souvent eu en onde à cette antenne, alors qu'elle était en Ukraine, est au bout du fil. C'est une collègue du défunt journaliste. On la rejoint à Paris. Clémence, bonsoir.
Bonsoir.
D'abord, mes condoléances à vous et à vos collègues de BFM TV. Parlez-moi de Frédéric Leclerc-Imoff. Qui était-il? Que faisait-il?
Ben, Frédéric, ça faisait 6 ans qu'il était, qu'il travaillait à la rédaction de BFM TV. Donc, c'est un JRI, journaliste reporter d'image. Moi, j'ai eu la chance de partir beaucoup avec lui en reporter en binôme, à l'étranger notamment. On s'est croisés aussi en Ukraine, donc il était un autre binôme. Et c'était quelqu'un d'extrêmement bienveillant. Il n'est pas forcément une qualité toujours très répandue dans le milieu. Extrêmement bienveillant et d'un calme olympien. Je suis en train de réfléchir en même temps. Je crois que je l'ai jamais vu s'énerver. Et Dieu sait qu'on est souvent soumis à la pression ou voilà. Et c'était vraiment quelqu'un sur qui compter, qui pouvait en tout cas tout le temps rebooster les reporters quand ça se passait pas forcément bien sur le terrain. Et puis, autre anecdote, parce qu'on s'est beaucoup croisés en Ukraine, quand il savait qu'une équipe avait emprunté une route et qu'il devait l'emprunter le lendemain, c'était le premier à envoyer plein de messages pour avoir toutes les informations, pour essayer d'aller dans les conditions de sécurité les plus sûres sur le terrain. C'était absolument pas une tête brûlée. C'était quelqu'un de très posé et qui était enthousiaste de pouvoir partir raconter ce qui se passait en Ukraine.
Et raconter ce qui se passe, c'est ce qu'il faisait. Votre collègue journaliste Frédéric Leclerc-Imoff à Severodonetsk. C'est une ville qui est encerclée par les Russes dans l'est de l'Ukraine présentement. Qu'est-ce qu'on sait des circonstances du décès de Frédéric?
À l'heure actuelle, alors c'est pas complètement établi, mais si je recoupe un petit peu tout ce qui s'est passé sur place, ils sont partis pour suivre un convoi humanitaire. Et c'est important parce qu'en fait, ils n'étaient pas sur le front ce jour-là. Ils étaient vraiment dans un convoi humanitaire avec des camions blindés. Et donc, ils devaient aller dans un premier temps apporter avec les humanitaires des ravitaillements de nourriture. Et donc, ils avaient checké le chemin, ils avaient estimé que c'était important, mais que c'était aussi très important de pouvoir montrer aux téléspectateurs ce qui se passait sur place. Parce qu'effectivement, non seulement Severodonetsk en ce moment, c'est très dangereux, mais en plus, c'est un des verrous clés de la bataille de Donbass en ce moment. Donc, c'est important pour les journalistes de pouvoir documenter sur place. Et justement, ce qu'ils voulaient documenter aujourd'hui, Frédéric et donc Maxime, son partenaire, et Oksana, leur fixeuse, qui eux deux ont été choqués et blessés respectivement, mais qui vont bien ce soir. C'est pouvoir montrer comment s'organiser un convoi humanitaire. Et malheureusement, effectivement, ce convoi humanitaire a été pris pour cible. Et c'est un éclat d'obus qui a touché, qui a traversé le pare-brise, qui pourtant lui aussi était blindé, et qui a touché Frédéric. Personne d'autre n'a été tué sur le coup, mais lui a été touché alors même qu'il avait gilet, casque, pare-balles et protection.
On a vu dans des conflits armés des journalistes être ciblés directement. Dans ce cas-ci, il semble que c'était le convoi et pas votre collègue journaliste qui a été ciblé, c'est bien ça?
Pour l'instant, il faut effectivement faire la lumière sur ce... sur ce qui s'est passé. Et en plus de ça, hasard du calendrier, la nouvelle ministre des Affaires étrangères française est en visite en ce moment à Kiev, et elle a donc évidemment demandé une enquête et que tout soit fait pour savoir ce qui s'est passé. Et elle a qualifié effectivement cette attaque de crime, parce qu'on ne vise ni des convois humanitaires ni des journalistes délibérément, même sur une zone de guerre.
Clémence Dibout, vous avez été postée en Ukraine. On vous a souvent interviewé à notre antenne et merci encore une fois. Comment les journalistes composent avec le danger de la guerre ces jours-ci sur le terrain en Ukraine?
Ben, c'est un danger permanent, surtout en Ukraine. C'est-à-dire que moi, j'étais dans le Donbass avant même les premières frappes russes. Et en fait, à ce moment-là, dans le Donbass, mi-février, la situation était assez claire. C'est-à-dire qu'il y avait une ligne de front avec deux armées régulières qui s'affrontent, et plus on s'approche de la ligne de front, plus on peut jauger du danger. Et ensuite, si on repliait, par exemple, à Sivero-Donetsk, qui était encore une base sûre à une heure du front, la vie continuait complètement normalement, avec des restaurants, même des boîtes de nuit, et le risque ne concernait vraiment que la ligne de front. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus compliqué, parce que même à Lviv, même à Kiev, qui aujourd'hui sont des villes considérées comme sûres, il peut y avoir une frappe, on l'a vu récemment à Kiev, il peut y avoir une frappe de missiles. Donc, il n'y a aucune place complètement sûre en Ukraine. Il faut travailler avec ça dans la tête. Et en plus de ça, il n'y a pas que la ligne de front qui est dangereuse. Vous voyez, les convois peuvent être ciblés. Donc, il y a une ligne de front extrêmement mouvante, des arrière-bases qui peuvent être prises pour cible. Et donc, le risque, il est permanent. Et nous, notre travail au quotidien, pour tous les journalistes qui sont sur place, eh bien, c'est de jauger le risque qui est permanent. Est-ce qu'avec ce risque, on peut rapporter comme information? Est-ce que le risque qu'on va prendre va être compensé par une très bonne information qui sera importante pour le grand public? Et évidemment, sur place, qui nous aide à jauger, à juger en permanence, ce sont les fixeurs, les interprètes ukrainiens, qui sont beaucoup plus que des interprètes, puisque eux vivent sur place, c'est leur pays, ils peuvent juger en permanence du danger que l'on peut courir.
Clémence, revenons à la base en terminant. Expliquez aux gens qui nous écoutent, qui seraient tentés de dire « Oui, mais bon, si c'est dangereux, pourquoi vous allez là? » Pourquoi vous et vos collègues journalistes allez là?
Comme je vous le disais, déjà, premièrement, il n'y a aucune ville complètement sûre en Ukraine. Donc, de toute façon, il faut aller se mettre en danger pour pouvoir raconter ce qui se passe dans cette guerre. Ce qui se passe dans cette guerre, c'est important de le documenter avec des images et des preuves irréfutables de ce qui se passe, parce qu'il y a, vous savez bien, des fake news, notamment sur les réseaux sociaux, il y a des contre-vérités, des vérités. Et à nous d'aller sur place et de pouvoir documenter, archiver ce qui se passe sur place de façon irrévocable, irréprochable. Voilà déjà pourquoi aller sur place. Ensuite, effectivement, pourquoi aller sur place, prendre des dangers? Parce que on va pouvoir expliquer ce qui se passe aux gens au plus près de la ligne de front, au plus près, qu'est-ce que vit la population ukrainienne, comment elle le vit. Par exemple, l'idée de Frédéric et de Maxime, c'était d'aller montrer comment se passe un convoi humanitaire, comment les personnes de Sivero-Donetsk qui ont pris la décision de fuir la ville malgré les bombardements, qui se font aider par des humanitaires, comment ils se font extraire. Et si on n'est pas là pour le montrer, on ne sait pas, par exemple, eh bien, que les convois peuvent être pris pour cible. Et voilà pourquoi, peut-être que à l'heure actuelle, à l'instant T de l'immédiateté de l'information, on ne comprend pas ce risque. Mais si on prend du point de vue de l'histoire, plus tard, quand il faudra raconter ce qui s'est passé, nos images, les images de Frédéric, qu'il a payé de sa vie, pourront servir à établir ce qui s'est vraiment passé. Et voilà pourquoi c'est très important et voilà pourquoi parfois on le paye de notre vie.
Excellente explication. Merci d'avoir été avec nous, Clémence. Et encore une fois, chaleureuses condoléances à vous et à vos collègues de BFM TV.
Je transmettrai. Merci à eux.
Merci. C'était Clémence Dibout. Elle est reporter pour BFM TV. On lui a souvent parlé quand elle était en Ukraine. Et je souligne en terminant là, que selon Reporters sans frontières, ben, depuis le début de l'agression russe en Ukraine, au moins 8 journalistes sont morts sur le terrain.
Patrick Lagacé en accéléré. Art et spectacle. Voici Catherine Beauchamp. All you need is a heart and a new steel. Viva Las Vegas.
Viva Las Vegas. Oui, viva Simon-Olivier Fecteau. Il est à Las Vegas, oui. Le grand maître d'orchestre, le grand chef d'orchestre du Bye Bye, qui a été renouvelé.
Oui.
Salut, Simon-Olivier.
Il s'est dépêché à signer. C'est moi!
J'étais encore dans mon introduction. Peux-tu garder le silence? Parfait. Maintenant que c'est dit... Tu vois, j'ai comme un talent comique, peut-être que... Qu'est-ce que t'en penses?
Hey, comment ça va?
Oui?
Tu veux pas le prendre dans le bye-bye, s'il vous plaît?
Arrêtez,
Patrick?
Je suis beaucoup trop occupé.
Ce serait bon. Écoute, je préfère Anne-Marie Dussault, quelque chose.
Bon, Simon-Olivier, félicitations pour le renouvellement de ce bye-bye avec presque toute la même équipe. Tu dois être content.
Ben, écoute, c'est sûr que oui. Ben oui, l'an passé, ça a vraiment bien été. Les deux dernières années, on dirait que le bye-bye a été très bien reçu. Fait qu'on va voir si on peut continuer ça.
mais je sais à quel point c'est difficile d'être dans la bête du bye-bye, Simon-Olivier Fecteau. Qu'est-ce qui fait que tu acceptes toujours de le refaire? Parce que je sais que tu finis un peu sur les rotules.
Je finis un peu. À chaque année, je fais une ingestion d'à peu près une semaine après le bye-bye. À chaque année. Mais je continue parce qu'il faut que je paye mon loyer. Non. Je continue parce que on a comme trouvé, à force de faire chaque année, on est comme rendu, on connaît notre show. C'est rendu plus le fun maintenant que du stress. Au début, c'était juste du stress. C'était comme tellement énervant, ce show-là. Puis là, on a trouvé à tous les départements, évidemment les comédiens, mais aussi tous les départements, on a des gens de confiance, puis on connaît notre émission, puis on dirait que c'est rendu un plaisir de le faire, là.
Simon-Olivier, on parlait de distribution, Guylaine Tremblay, Sarah-Jeanne Labrosse, François Bellefeuille, qu'on connaît, qu'on a vu, et Pierre-Yves Roy Desmarais, qui avait fait des apparitions dans les années précédentes, entre autres en tant que virus. Et là, qu'est-ce qui a justifié le fait qu'il embarque là, vraiment à fond dans cette nouvelle édition du Bye Bye?
Bien, tu sais, à chaque année, on fait des petits changements dans le casting. Tu sais, si on regarde le casting il y a 6 ans ou 7 ans, ben c'est pas le même que maintenant. Fait que chaque année, il y a tout le temps un mouvement là-dedans, puis on trouve ça important de se renouveler, puis tu sais, pour les gens aussi, il y a toujours des surprises. Puis Pierre-Yves Roy Desmarais, ben et ça fait 2 ans qu'il faisait l'ouverture, et puis et c'était exceptionnel, ces ouvertures. Je pense que c'est les meilleures ouvertures que nous, on a eues, en tout cas. Et puis, on trouvait que c'était un bel ajout, parce que c'était un gars multitalentueux, il est drôle, puis ça, c'est le fun. On a besoin de monde drôle. Puis, c'est extrêmement gentil aussi, d'ailleurs, puis ça fait partie de l'équation aussi, là. Fait que je pense que tout ça ensemble fait qu'on voulait travailler avec lui, puis on voulait l'avoir cette année, là.
Je sais qu'habituellement, vous commencez à écrire les sketchs du bye-bye du mois à débroussailler au mois d'août. Là, il va arriver une campagne électorale. Est-ce que ce sera pour vous un lieu de riche information? Est-ce que vous allez regarder la campagne ou c'est quelque chose qui peut être facilement périmé dans des gags?
Mais le bye-bye, on essaie de... Ça dépend de ce que la campagne va arriver. Ça dépend ce qui va arriver. Parce que comme la campagne qu'il y a eu, je pense, c'est l'année dernière ou le 2 ans, mm-hmm. Il y en a une qui est passée dans le beurre complètement. Puis on voulait faire des blagues sur la campagne, puis comme personne n'avait vraiment suivi, puis c'est comme, si la campagne se démarque, ben elle va se démarquer au bye-bye. Puis si la campagne est plate, puis le résultat est exactement le même, puis il n'y a rien qui change, ben tu sais, ça va donner ce que ça va donner, là. Fait que c'est plutôt... comment cette campagne-là va être perçue qui va nous dicter un peu. Mais c'est sûr que nous, on s'ajuste, t'sais. C'est-à-dire que on commence à écrire en août, mais le vrai crunch de l'écriture, je dirais qu'il est comme en octobre, même novembre des fois. Puis s'il y a quelque chose de spécial qui arrive en décembre, mettons le 8 décembre, Patrick Lagacé tombe enceinte, mettons, ben, on va en parler, évidemment.
OK, puis là, il y a eu un record, évidemment, dans les codes d'écoute. Hein, on avait parlé de 4 862 000 personnes qui avaient regardé le bye-bye. C'était quand même 200 000 de plus que l'année précédente. Évidemment, on est en confinement. Je me dis, là si ça redescend, là, faut pas que vous preniez ça comme un échec, parce que ça se peut pas aller plus haut, là. Je veux dire, à moins de faire écouter ça aux bébés naissants puis aux gens qui dorment de nuit, là, je sais pas,
ben
mais...
C'est ça. J'allais faire des jokes qui se font pas. Mais c'est sûr que ces chiffres-là garde, veux pas, soyons réalistes, là, c'est sûr que la pandémie, nous, de notre côté, ça nous a aidés. Les gens peuvent pas sortir de la maison. Fait que c'est sûr que ça fait plus de gens devant leur télé. T'sais, je serais étonné qu'on fasse ces chiffres-là cette année. Là. Cela dit, je pense que moi et même Guillaume, on n'a jamais fait ça. Les chiffres, ça, c'est vraiment secondaire. Là. C'est sûr qu'on veut qu'il y ait des gens qui écoutent, mais on veut surtout qu'il y ait des clients satisfaits. On veut surtout que les gens qui l'écoutent aient du plaisir. Là. Fait que nous autres, on travaille là-dessus, puis le reste, garde. Mais je serais vraiment étonné qu'on fasse les mêmes chiffres, là, garde. Restons honnêtes. Là,
je trouve ça le fun parce que vous nous dites qui va être dans le bye-bye, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est qui va écrire le bye-bye. Est-ce que c'est la même équipe d'écriture que l'an dernier ou il y a encore des changements?
Sensiblement, c'est pas terminé de ce côté-là. Mais sensiblement, c'est sûr qu'on essaie de s'entourer des gens diverses, mais je parle diversité culturelle, oui, mais aussi d'âge, puis aussi de sexe, puis aussi juste pour avoir une meilleure vue d'ensemble. Mm. Tu sais, on veut pas faire un bye-bye qui est comme complètement à gauche ou complètement à droite. Moi, je trouve, dans les deux cas, je trouve ça irritant là, quand ça prend une position politique trop forte. Mais on veut faire un bye-bye qui représente les courants du moment puis qui représente la perception du moment aussi. Fait que c'est important qu'on s'entoure juste de différents genres de cerveaux là, autour de la table.
Simon Olivier, fait pas trop de folie à Las Vegas. Merci de nous avoir parlé, hein.
Hey, merci à vous autres. Désolé pour la connexion qui est pas bonne.
Hey, ne parie pas ta maison là ce week-end, cette semaine.
je pense qu'il est trop tard.
C'est pour ça que tu as fait le bye-bye, dans le fond. Hein?
C'est ça. Il y a une ligne à rabais.
Merci, Simon-Olivier. À la prochaine. Simon-Olivier Fecteau, le grand maître d'œuvre du bye-bye, qui est de retour avec sensiblement la même équipe pour le bye-bye 2022. Il y a quelques semaines, l'Ombudsman de Montréal a déposé un rapport sur l'itinérance dans le secteur qu'on appelle Milton Park. C'est tout près du Mont-Royal, là, pour vous situer, disons, au sud du Mont-Royal et jusqu'à la rue Sherbrooke. Il y a énormément d'itinérants d'origine inuite. Et l'Ombudsman parlait d'une crise humanitaire au cœur de Montréal et écorchait la ville de Montréal qui, depuis 4 ans, rate souvent le bateau pour encadrer cette forme très particulière d'itinérance. Et c'est assez particulier ce qui se passe, hein, je le souligne. C'est un secteur que je connais bien. Les incivilités qui se multiplient, il y a des bagarres, il y a des tensions avec les commerçants et les résidents parce que les itinérants squattent devant des résidences, devant des commerces, pas toujours facile. Et tout ça, on le souligne, il faut le dire, est le fait de personnes qui sont hautement vulnérables, mais ça n'en demeure pas moins déstabilisant quand on habite ce quartier-là. Martine Michaud est membre du collectif des résidents de Milton Park, déposé la plainte à l'Ombudsman de Montréal. Elle est au bout du fil. Madame Michaud, bonjour.
Bonjour.
D'abord, on va faire un rappel historique, là. Ça n'a pas toujours été le cas que les itinérants inuits étaient dans le coin de Milton Park. Qu'est-ce qui s'est passé depuis quelques années?
Ce qui s'est passé, on avait autour de 7-8 personnes en état d'itinérance depuis très longtemps. Maintenant, à compter de 2018, il y a eu l'arrivée d'un refuge qui s'appelle Open Door dans le quartier. Et ce refuge-là, comme tout service qu'on accueille dans un quartier, va attirer la population que ça veut desservir. Donc, on a eu depuis 2018 une augmentation de 400% de la population itinérante d'un quartier. Donc, imaginez une augmentation de 400% de la population de Montréal en 4 ans, en moins de 4 ans, ce que ça pourrait vouloir dire comme problématique. Donc, ça vous donne un peu le portrait de la situation. Et ces personnes-là, donc, se cherchent des lieux pour s'asseoir, se cherchent des lieux pour faire leurs besoins, pour manger, etc. Et tout se rejette dans la rue. Donc, ils se retrouvent à faire en sorte que la situation est devenue pour les gens, c'est devenu une situation de crise à la fois pour les personnes en état d'itinérance qui sont laissées pour compte à mourir, que je dirais, dans la rue. Mm. Et en même temps, on a un sérieux problème avec les enfants, par exemple, continuent d'être témoins de prostitution, de consommation de drogue, d'agression des femmes inuites par leurs compagnons. Les enfants laissent plus les jouer les enfants dehors seuls. Les personnes âgées ont de la misère à marcher sur les trottoirs parce qu'il y a des tritus, des gens intoxiqués, couchés. Et pendant que d'autres se mettent en danger eux-mêmes en allant entre les voitures au coin de Milton Park en particulier pour aller quêter, puis les voitures sont en mouvement. Donc, il y a souvent il y a des risques d'accidents incroyables.
Il est arrivé d'ailleurs que des voitures percutent des itinérants qui quittaient. Là.
Ah ben oui.
Madame Michaud, j'ai parlé d'incivilité. Puis écoutez, sans entrer trop dans les détails, parce que des fois, ça peut être un peu obscène, là, mais racontez ce dont vous avez été témoin depuis 4 ans.
pour résumer, là, je vais vous donner l'exemple d'un immeuble qui se situe autour de Milton et Park. Cet immeuble-là, à chaque jour, ils doivent nettoyer le devant de leur entrée parce que pendant la nuit, il y a eu des itinérants qui ont campé là, donc ils ont fait leurs besoins là, ils ont mangé, ils ont tout laissé là, et le matin, quand ils veulent sortir, ben ils doivent trouver une façon de demander à des personnes de s'enlever de là, parce qu'ils veulent sortir de leur maison pour aller travailler. Donc, on retrouve ça à l'intérieur, dans les ruelles, on retrouve la même chose. Les commerçants, je connais un commerçant qui, une fois, a voulu entrer chez lui, dans son commerce le matin, et il s'est retrouvé dans cette situation. Il a tenté de faire venir les gens de Open Door pour demander aux personnes en itinérance de partir, pour qu'ils puissent nettoyer avant que ses clients rentrent. Mais Open Door a pris une heure à arriver. Et là, on nous dit, ben, appelez le 911. Le 911 va prendre autant de temps à arriver. Donc, finalement, c'est que ce qu'on nous dit qu'on doit cohabiter, ben, ça devient cohabiter avec quelque chose qui n'est pas tolérable.
Ça fait quelque temps que je vois les activités de votre groupe, les revendications du collectif des résidents résidentes de Milton Park, Madame Michaud. Puis je dois le dire, là, je le dis aux auditeurs, vous êtes pas dans la logique, pas dans ma cour. C'est pas un ou deux quêteux, comme on dit là, en bon québécois, qui sont au coin de la rue, qui peuvent des fois être turbulents. C'est toute une collectivité qui est dérangée par ces gens-là qui sont très vulnérables. Et ça, vous avez toujours pris soin de le dire, que vous comprenez qu'ils sont très vulnérables.
Ils sont très vulnérables et on demande depuis 4 ans, ça fait partie d'une des raisons pourquoi on a fait une demande à l'Ombudsman. Vous savez, quand on fait une demande à l'Ombudsman, c'est qu'on est en situation de dernier recours. On n'a plus de ressources. On a fait pendant 4 ans, des lettres, savoir, on est monté jusqu'au premier ministre, on est allé au fédéral, au provincial, tout le monde se renvoie la balle. Et pour les autorités, en fait, ça fait leur affaire de considérer que l'itinérance, je parle pas juste l'itinérance, la personne qui tombe en état d'itinérance pendant un mois et demi, etc. On parle d'itinérance chronique. Donc, itinérance chronique, ça veut dire des gens qui sont abandonnés par l'incurie des autorités, à mourir un petit peu dans la rue. Et donc, nous, ce qu'on demande, c'est des réels services pour ces personnes-là. Et il y a comme un consensus qui est celui-ci, c'est que, d'une part, la ville ne planifie rien, d'autre part, on se renvoie la balle, mais qui ramasse les morceaux? Ce sont les quartiers dans lesquels ça se passe. Donc, c'est nous qui devons, ce sont les commerçants ou etc. qui doivent payer pour faire réparer leur vitre cassée, leur vitrine à fracasser, pour faire poser des contreplaqués, pour se protéger, et ainsi de suite. La Ville refuse de payer pour tout ça, là. Mais, d'un autre côté, la Ville ne fait rien.
L'Ombudsman a déposé un rapport le 4 mai. Il y a des blâmes pour la Ville de Montréal et des recommandations. Comment vous avez reçu ce rapport, d'une part, Mme Michaud, et d'autre part, qu'est-ce qui est urgent de faire?
Ce qu'on demande de plus urgent, c'est la mise en place d'un centre de services adapté à la réalité culturelle des Inuits, puis qui intègre des services de santé physique, mentale, des mesures de réinsertion sociale, d'aide à trouver du travail éventuellement quand ils le peuvent. Mais il y a un gros travail de désintoxication à faire et la prise en charge permanente des personnes qui ne peuvent plus s'occuper d'eux-mêmes. Donc, on le fait pour des personnes âgées et ainsi de suite, mais on n'a pas le courage politique de le faire par rapport à l'itinérance autochtone. Donc, je dirais en boutade, je me pose la question, est-ce que on fait aujourd'hui tant que ça mieux que les pensionnats du siècle dernier. Mmh. On les laisse mourir dans la rue.
C'est une bonne observation. Merci d'avoir été avec nous, Mme Michaud. Bonne chance avec tout ça. On va suivre le dossier.
Merci beaucoup.
À la prochaine. Martine Michaud, membre du collectif des résidents-résidentes de Milton Park. C'est ce collectif qui a déposé une plainte à l'Ombudsman de Montréal pour la situation de l'itinérance inuite dans le secteur du quartier Milton Park.
Patrick Lagacé en accéléré.
Le Québec maintenant.
J'en ai plein mon chasse de l'hiver. De sa mère, des nids de poule et de tous nos rêves qui s'écroulent. J'en ai plein mon casse de la guerre, puis de toutes les autres affaires qui font que les humains de la terre ont tout plein de remords.
Le papa de J'en ai plein mon casse, un hymne célèbre, est avec nous. Salut Émile.
Bonjour, merci de me recevoir.
Plaisir, Émile Bilodeau. Hey, ça te fait quoi d'écouter une de tes chansons comme ça, quand tu l'entends?
Ben, ça me rappelle mes débuts. Ça, c'est celle qui m'a permis de me faire connaître. Puis, je savais pas trop dans quoi je m'embarquais, pour être honnête. Puis, je suis content de comment ça s'enligne, là, depuis ces dernières années.
On dirait qu'elle est indémodable, la chanson.
Ah, oui, hein. Ben, je pense que c'est ça. C'est bien keb comme tune. Tu sais, j'ai vraiment écrit pour les Québécois. Les Français, quand je chante ça, ils comprennent pas grand-chose.
Mais tu tannais, tu sais, le fameux hit, ton premier hit.
Non, je suis pas tannée.
Le creep de Radiohead. Là.
Non, pas en tout, parce que, écoute, pour plusieurs raisons, mais pour vous autres, je me comprends.
Bullshit-moi pas, t'es un gars qui bullshit pas.
Là. OK, je vais pas vous bullshiter. Ça m'a permis de financer d'autres projets. Okay. Tu sais, puis c'est ça qui est cool avec une tune qui marche bien, c'est que je peux faire ce que j'ai envie. Tu sais, comme je suis allé tourner un vidéoclip à Mario Tenam avec mes amis et nous, puis ça, c'est parce que j'avais un peu de sous pour le faire. Tu sais, okay, peut-être.
Ça permet
que,
ça.
C'est ça, vraiment.
OK, donc pis quand tu rentres quelque part dans une boutique, puis il y a une de tes chansons, ça te fait quoi?
Ça, c'est bon pour, ben, tu sais, mettons, c'est bon pour l'ego, mettons, je vais le dire, parce okay. que c'est le fun. Moi, mon grand rêve, j'ai pas encore mon permis de conduire, ça serait que pendant mon examen final, ma toune parte. Fait que là, que mon parallèle soit bon ou pas, j'aurais peut-être plus de chances de l'avoir.
Et tu es en train de suivre ton permis de conduire?
Ouais, c'est ça. Moi, j'ai coulé deux fois mon examen final. Puis là, moi, j'ai un projet d'aller vivre à l'étranger là dans quelques années. Puis à Lyon, en France, parce que j'ai une maison de disque là-bas, mais une maison de production plus là pour faire des shows. Puis j'aimerais ça me rendre à mes shows tout seul, pas nécessairement en taxi ou en vélo, tu sais, arriver là-bas tout de suite. Là,
mais si t'as raté, c'est parce que t'as un TDAH ou c'est parce que...
Ben, moi, je suis la génération qui a regardé Fast and Furious, ouais. là, puis tous les films dangereux. Fait que pour moi, la voiture, ça me stresse à cause de Vin Diesel, puis surtout Paul Walker, maintenant.
Hey, c'est tellement drôle que tu dises ça, parce que moi, le vélo... En c'est... ville, ça me stresse.
Elle,
moi, j'ai aucun problème avec
on
la voiture.
On est l'antithèse l'un l'autre. C'est drôle. Vraiment. Le yin et le yang.
Beaucoup de vélos, quand même, faut le dire.
Oui.
C'est ton moyen de transport préféré.
Exactement. Mais moi, j'aime ça l'utiliser même dans mon travail. Je fais des tournées de vélo, puis avec mon sonorisateur, on a chacun une guide dans le dos. Parce que s'il arrive un problème, là, j'ai pas comme mon équipe pour changer une des cordes, par exemple. Fait que c'est vraiment avec peu de moyens, mais l'idée, c'est vraiment de dire aux gens qu'il y a moyen dans son domaine, tu sais, d'être écolo, puis je me suis dit je vais faire mon bout de chemin, juste prouver un peu que
et tes porte-parole du festival Go Vélo Montréal,
ouais.
C'est du 29 mai, ça a commencé tout récemment, jusqu'au 5 juin. Troisième fois que t'es le porte-parole.
Ouais.
Mais tu dis que t'as pas ton permis de conduire encore. T'as quel âge?
Là, j'ai bientôt 26.
Ouch. OK. Mais donc, tu l'as sur le tard, mais c'est parce que t'es un urbain aussi. T'en as pas
eu
besoin.
C'est ça. Ben, merci à Valérie Plante hein, pour le beau système de pistes cyclables sécuritaires structurants. Puis moi, je plains un peu les gens de Québec là qui doivent se battre encore pour leur tramway. Tu sais, Régis, là-bas, mais est parti en disant « Moi, ma job est faite, le tramway arrive. » Régis s'en va, puis là, la CAQ se mêle des municipalités. Un jour, ils vont pouvoir prouver ce qu'ils veulent, la CAQ, c'est-à-dire de pas intervenir dans ce qui est pas leur champ de compétences.
T'es toujours sur le bord de la politique.
Ah,
c'est que la
oui,
CAQ...
vraiment.
Mais sans blague, il y a comme une réponse. Ils t'ont quand t'as porté ton fameux macaron.
Ouais.
Puis là, ils t'ont répondu, tu leur as répondu. C'est-tu devenu, toi, l'opposition officielle à Québec?
Non, mais moi, je suis content de faire partie de cette belle démocratie vivante. Puis oui, je suis un adversaire politique, mais je respecte beaucoup le travail de politicien. Puis
c'est ce qu'on... Tu te gênes pas pour le dire.
C'est ça, vraiment.
Ce qui est rare de ta génération.
Ah ouais, tu trouves.
Qui tu trouves bon à la CAQ? Parce que tu as souvent parlé contre
la
CAQ.
Ah, ben, Christian Dubé, quand même. Solide bilan. Tu sais, je pense qu'il est arrivé quand Mme McCann est partie. Lui, c'est sûr, il a eu le beau jeu parce que les vaccins arrivaient. Tu sais, fait qu'il a organisé ça. Je pense qu'on est une des populations les plus vaccinées. Mais par contre, un jour, vous me permettrez de critiquer, tu sais, Moi, je trouve ça drôle quand même, cette idée-là. Tu sais, on parlait beaucoup de racisme systémique. Puis, ce qui est drôle, c'est qu'ils ont formé un groupe avec Caïman, des ministres, des députés. Puis, on s'est rendu compte que ce groupe-là a pas consulté les leaders des groupes des minorités religieuses ou encore visibles, tu sais. Donc moi, je trouve ça drôle, on a un gouvernement super populaire, mais on dirait que les gens se rendent pas compte que pour ce qui est de comme consulter les gens qui sont sur le terrain, qui savent les réalités, la CAQ est bon dernier là-dedans.
T'sais. Mais la même chose est arrivée en culture aussi quand il y a eu peu de consultations, les gens apprenaient à dernière minute les salles fermées ou en tout cas puis les gens disaient on n'a pas été consultés.
Il y a eu des gens super importants dans l'industrie de la musique, là, je vais parler de ce que je connais, qui se sont assurés que l'argent, les subventions qui nous ont été données descendent pas juste dans les salles, mais aussi pour les artisans. Ouais. Fait que ça, on s'est vraiment serré les coudes pour que cet argent-là n'ait pas juste pour les programmateurs de salles ou les salles.
Après ton Lyon, là, après ta France, là, si le téléphone sonne pour faire de la politique, qu'est-ce que tu réponds?
Ben, je pense que ça va me tenter, parce que je me rends compte que je me force pas. Puis tu sais, ça fait quoi, 5 minutes qu'on se parle? Ouais. Exactement, fait que je peux pas faire fi de ça.
J'avais préparé des questions un peu ratoureuses pour t'amener sur la politique. Là, ben, t'es allé.
Ben, vas-y,
c'est
gratuit.
Écoute, je laisse. T'as, de façon célèbre, porté un macaron contre la loi 21.
Ben, j'espère bien.
C'était à la fête nationale, hein, je pense. Et un peu partout. Là, il y a la loi 96 qui vient d'entrer en vigueur sur la protection du français. Tu portes un macaron, présentement.
Ouais, ça, c'est pour faire référence à 95.
La loi 96, qu'est-ce que t'en penses?
Ah, ben, c'est quand même complexe, tu sais. Il faut savoir qu'il y a des communautés autochtones qui, eux autres, pour garder un genre de lien avec tout ce qui est institutionnel, ben, utilisent l'anglais. Puis, il faut les comprendre parce que à partir du moment où tu t'es fait coloniser, t'as le droit de choisir la langue de colonisateur que tu veux, je veux dire. Fait que, il y a beaucoup de manifestations en ce moment où il y a des communautés autochtones qui disent voilà, on nous demande d'apprendre le français, mais nous autres, notre langue, tu sais, est où là-dedans? Notre langue maternelle qui était sur ce territoire-là, des millénaires avant que les Français débarquent. Puis moi, je pense, tu sais, on parlait tantôt de consulter, là, ça serait vraiment le fun d'aller leur jaser ça. Puis deuxième affaire, tu sais, je sais pas si vous savez à quel point le français, c'est une langue quand même dure à apprendre. Puis moi, de savoir qu'on donne seulement 6 mois aux nouveaux arrivants pour, après ça, recevoir le courriel du gouvernement en français, je trouve ça quand même violent. Mais moi, ma langue, je l'aime, tu sais, puis je sais qu'il faut légiférer. Mais à un moment donné, il faut pas se faire les coups qu'on veut pas se faire, tu sais.
Toi, c'est toi qui es au gouvernement, là, puis tu décides, par exemple, la loi 101 au cégep. Ben, qu'est-ce que t'aurais fait? Tu durcis la loi 101 ou à l'inverse, tu t'allèges?
Ben, moi, j'ai beaucoup aimé votre intervention parce que la langue, là, on pourrait, au lieu d'y aller avec une manière coercitive puis le bâton, on pourrait la valoriser autrement, tu sais. Ben, simplement la valoriser. On a des artisans de la langue ici qu'on pourrait encourager davantage. Tu sais, je veux dire, le français au Québec continue d'évoluer. Il est mixé avec plein de cultures. Fait que moi, c'est plus de même que je l'attaquerais. T'sais, dans mes cours de cégep, j'aimerais ça qu'on parle de franglais, puis qu'on définisse ça ensemble, puis qu'on écoute les jeunes aussi. Pour vous, c'est quoi la langue? T'sais, là, on arrive, puis on arrive avec le bâton, la carotte. Fait que moi, je pense que une des faiblesses de la CAQ, c'est de pas écouter, puis il serait dû pour écouter un peu plus cette jeunesse.
Il y a quelqu'un qui m'écrit dans messagerie, Émile, moi, depuis son macaron, je suis moins contente de lui. En parlant du macaron contre la loi 21.
C'est normal.
Est-ce que tu vois les effets concrets, disons, négatifs de tes prises de parole?
Ah ben oui, c'est sûr que, mettons, dans mes convictions, il y a des gens qui se sont moins retrouvés. Mais il faut pas oublier une chose, c'est que moi, depuis que je suis sur cette terre-là, l'affaire dont je suis le plus sensible, c'est l'égalité des chances, tu sais. Puis moi, je m'excuse, mais quand tu regardes ça, cette loi-là, concrètement, qu'est-ce que ça fait pour les minorités religieuses? Ben, concrètement, ça leur enlève du poids économique. Ça leur enlève aussi une place dans cet État, tu sais, parce que c'est des jobs étatiques, c'est-à-dire profs, policiers, politiciens. Fait que moi, je fais juste poser la question, la laïcité...
Mais politiciens, ils peuvent quand même garder les signes religieux, là.
Ouais, il y a la clause grand-père aussi, là, mais tu sais, toute cette génération-là qui veut rentrer dans ce domaine-là, tu sais, puis qui ont pas le droit, moi, je suis sensible à ça, c'est sûr.
Je vois ton chandail de Pierre Falardeau. Où et comment t'as fait ton éducation politique?
Ben, ça s'est fait beaucoup avec la musique, les films, les entrevues aussi. Moi, j'ai passé beaucoup de temps à écouter des gens donner des entrevues. Puis ce qui m'a le plus frappé de mes modèles, tu sais, on pourrait parler de Serge Bouchard, Bouchard aussi, de Dédé Fortin, par exemple, ou de Françoise David, tu sais, c'est leur authenticité. Fait que moi, ce que je déplore un peu de notre époque en ce moment, c'est que on y va avec des phrases qui attaquent sur les réseaux sociaux. Mais dans le temps, on pouvait se rencontrer puis se parler. Tu sais, moi, j'ai un exemple formidable. Je marchais dans Hochelaga, on parlait de loi 21 avec un monsieur. Puis là, OK, Georges porte parle. Il dit, t'as raison. Il dit, c'est-tu toi, Émile Bilodeau? Je dis oui. Il dit, hey man, je t'ai planté en tabarnak ces réseaux sociaux. Toi. Moi, je trouvais que c'était une image formidable.
As-tu eu peur à un moment donné? Parce que je me souviens quand il y a eu le Macaron Gate. Là.
Ouais.
On t'avait demandé en entrevue, puis là, je pense que les relations de presse nous avaient dit non.
Oui, on essaie de calmer le jeu un peu.
Il veut plus parler ou il veut pas parler. Puis, tu sais, je t'entends aujourd'hui, puis t'as pas l'air d'avoir peur de tes opinions. Je me demandais pourquoi tu t'étais tu à cette époque-là.
Ben, il y a plusieurs raisons. Une de celles-ci, c'était que j'avais reçu beaucoup de menaces. Puis, ça me tentait pas de continuer de mettre du gaz dans ce feu-là. Puis, la deuxième, il y avait une raison. Moi, je suis authentique, vous savez, là. Il y avait une raison aussi, marketing, c'est que je lançais un album. Puis, ça me tentait que les gens écoutent les tunes, genre, sans penser trop à la position politique que j'avais prise. Puis, je pense que maintenant, je suis prêt. Je regarde ce qui a été fait derrière moi, puis je regarde l'élection qui s'en vient. Puis, je sais qu'il va falloir faire face à la musique, puis il va falloir le faire avec le respect que je veux qu'on m'adresse quand je vais vouloir parler d'enjeux de société. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je vous parle calmement.
OK, ben Émile, on te garde pour finir l'émission. Merci d'être
Merci.
Là.
3, 4, prêt, il faut que tu te battes pour un prêt. Puis si tu le rembourses pas, ben là, ça va mal. On pogne pas grand poisson dans le filet social. Fait que tu te mets à emprunter des billets verts. Je suis banquier. Ça, c'est une mauvaise idée. Parler d'argent, c'est pas toujours...
Le Québec maintenant
fait chacun son bout de chemin. Mais y'en a un qui va pas bien. J'ai jamais voulu t'empêcher d'être heureuse.
T'aurais dû y penser avant d'attaquer mon chum et que t'as soufflé.
Bien sûr! Je voulais qu'on se rende à ce bout-là.
Mais Émile, t'es une machine à créer parce que t'as composé tout seul comme un grand.
Ouais,
et
c'est ça.
Et ça, c'est un album qui n'est pas sorti encore, qui va sortir à l'automne.
Tout seul comme un grand parce que j'ai tout fait les instruments tout seul.
T'es talentueux. Je savais pas que tu maîtrisais autant
les lignes de
basse
sont pas bonnes. Vraiment, j'ai vraiment eu de la misère.
Pourquoi tu voulais qu'on se rende jusqu'au bout de la souffleuse?
Ben, c'est parce que c'est une chanson qui parle de genre une séparation. Puis tu sais, dans l'histoire, mon ex, elle s'est fait un nouveau chum. Puis là, c'est super. Tu sais, je souhaite d'être heureuse, tout ça, mais genre à la fin, la joke, c'est genre, j'ai rentré dedans avec ma souffleuse. Fait que c'est bien, c'est
une si un chandail de Pierre Falardeau, puis une plume la traverse, faut que t'aimes des paroles qui rock un
c'est
peu.
C'est ça, à un moment donné, on peut pas s'en sauver.
T'as deux albums en stock, Émile
oui,
Bilodeau.
Exactement.
Pas un, mais deux. Comment, qu'est-ce qui s'est passé?
Ben, c'est que pendant la pandémie, c'était soit ça ou je tombais en dépression. Fait que je me suis créé un environnement de laboratoire. Tu sais, on parlait de cet album-là que j'ai fait tout seul.
Pis... comme un. Ouais, que tu dis, tu joues sur tous les instruments, mais tu disais, c'est un peu comme une joke. Pourquoi?
Ben, c'est parce que c'est des tunes bien juvéniles. Tu sais, récemment, j'ai sorti un album, Petite Nature, qui parle de santé mentale, de racisme systémique. Ça parle de la place de la femme aussi dans notre société. Fait que là, j'étais juste comme, on s'en va faire du rock, puis on va parler des tunes de la royauté. Tu sais, on veut. C'était vraiment rock plus.
Mais parlons-en des chansons plus engagées.
Ouais.
Tu l'es, je pense que dans
oui,
ton cas,
vraiment.
On peut dire, Émile, que t'es un chanteur engagé. Ouais. Où on trouve l'équilibre entre passer ses messages puis pas devenir prêchi-prêcha?
Ça, c'est une bonne question. Je pense que tout est une question d'équilibre. Tu sais, j'ai des chansons qui parlent vraiment de ma vie privée. Tu sais, j'ai écrit une toune sur mon frère, par exemple, ou j'écris des chansons comme Ça va qui parle du décès de mon grand-père. Fait que je suis un gars bien familial. J'ai une chanson aussi qui va sortir qui parle de mes amis. Fait que je pense que je vais montrer à mon public aussi que j'ai cette sensibilité-là, tu sais, d'être quelqu'un aimant et aimé, tu sais, puis que les gens se reconnaissent là-dedans. Mais comme on disait en début d'entrevue, moi, tu sais, Falardeau il disait, moi, faire un film sur un couple qui s'en va acheter son épicerie, là, c'est sans intérêt. Puis lui, il a fait des films genre où on voit plus la nature humaine, tu sais, fait que moi, parler de George Floyd, Joyce Echaquan, tu sais, je trouvais que c'était comme ça venait nous toucher une corde sensible, puis de nous rappeler qu'on est tous humains au final, tu sais, fait que c'était, pour moi, c'était une question d'équilibre.
Parlons de Bessic à pédale.
Oui, avec okay. plaisir.
Bon, t'es porte-parole pour la troisième année du festival Go Vélo Montréal. C'est le seul véhicule que tu conduis.
Ouais, j'ai
pour
pas le choix d'être porte-parole de ça.
Nécessité ou éco-anxiété?
Alors, je te dirais que c'est nécessaire aussi parce que à Montréal, tu sais, moi, mes amis sont à Hochelag, moi, je suis à Rosemont. Fait que je suis pas une Saint-Denis. Ça s'appelle le rêve, je pense. Ouais, j'y vois les yeux fermés, mon
gars. Tu pas une Saint-Denis, puis quand t'arrives à Despins, là, whoops, c'est, ouais, là, mais, c'est la jungle.
Ouais, mais c'est ça. C'est comme un peu l'éternel combat entre les voitureurs et les cycleux, là. Moi, je voulais vous parler de vendredi le 3 juin. Je peux-tu pas?
Bien sûr.
C'est de 20h à 23h, ça s'appelle le Tour la nuit. C'est comme un soir de la Saint-Jean, mais c'est ton bicycle. Tu peux aller là-bas avec ta famille. Tu...
Il y a du bord avec des lumières sur le bicycle.
Exact.
Je l'ai fait il y a plusieurs années, c'est vraiment le fun.
C'est vraiment cool.
Je me souviens, l'an dernier, je suis arrivé chez nous à 2h du matin.
Ah, mais c'est que ça finit à 23h.
Arrivez ouais, chez vous.
Pas les rues barrées.
Ouais, c'est ça, dans les parcs, ça continue. Fait que ça va être 22 km. Puis après ça, il y a le fameux Tour de l'île de Félix Leclerc. Ça se passe de 9h30 à 2h30 le 5 juin. Fait que je vais être là le dimanche, puis je vais faire 36 km avec les gens qui voudront bien.
Pourquoi t'as dit oui à ça, d'être porte-parole de ça? Ils ont passé à toi comment?
Ben, moi, tu sais, je me dis que à partir du moment où on va avoir le courage de sortir du Canada pour arrêter de financer des pipelines deux jours après que le GIEC nous a dit d'arrêter de le faire, ben, on va pouvoir s'organiser comme on le souhaite, tu sais. Puis moi, je pense qu'il y a toute une classe scientifique à financer. Où est-ce qu'on peut aller avec Hydro-Québec qui est en train de nous ramener des milliards à New York, tu sais? Moi, c'est ces questions-là que j'aimerais qu'on se pose pour qu'on arrête de regarder le gros burger, là, à Alberta, puis à B, comment, B du B? Comment
ça? Mon Dieu, B du Nord.
B du Nord, tu sais. C'est comme, pour moi, ça, c'est de la malbouffe, tu sais. Pourquoi pas se concentrer sur notre belle salade, tu sais, de ressources renouvelables? Fait que pour moi, ça, c'est le premier pas. C'est de dire aux gens, amenez-vous du déo dans votre sacoche, puis une fois rendu, mettez-vous en dessous des bras.
C'est un très bel événement, mais on prévient quand même les automobilistes. Ouais. 5 juin, donc vendredi.
On s'excuse.
Faites attention. Voilà. Merci.
Merci à
le vendredi, le 3 juin, faites attention, parce que ça va être bouché pour retourner dans Rosemont,
écoute,
madame.
J'ai pris des notes, là.
Écoute, dans la vie, on apprend. On a appris. Là, on va venir en bicycle travailler.
Yes.
Merci d'être venu nous voir.
À bientôt.
Merci.
Richard,
toujours un plaisir de te croiser.
Patrick Lagacé, en accéléré.
C'est 23.